Voilà, comme tous les dimanches, demandons à l'Esprit Saint de nous unir dans la compréhension, dans l'écoute aussi, que l'Esprit Saint fasse une œuvre de, je ne sais pas comment on peut dire, de compréhension profonde. Parce que la parole de Dieu, quand elle nous est adressée, c'est vraiment pour que nous la comprenions pas superficiellement, mais en profondeur, et puis pour que nous la mettions en pratique surtout. Alors, nous te bénissons, Seigneur, de nous placer en face de cette parole que tu as inspirée à des hommes pendant des siècles. Particulièrement cette parole que tu as inspirée à l'apôtre Paul, que nous allons lire. Seigneur, il y a des choses très, très importantes dans ce que nous allons entendre de l'apôtre Paul. Et nous te demandons, Seigneur, que ça n'entre pas par une oreille pour sortir par l'autre, mais que ça s'arrête au cœur, Seigneur. Que ça s'arrête à notre intelligence. Que ça s'arrête à notre volonté de faire ce que tu demandes, parce que nous savons que l'Esprit Saint, c'est la sagesse même. Et si l'apôtre Paul a écrit ces phrases, Seigneur, ce n'est pas pour rien. C'est pour que tes enfants, ceux qui se réclament de Jésus-Christ, puissent vraiment porter des fruits pour la gloire de ton nom. Alors merci, Seigneur, de ce que tu vas nous dire au fond de notre cœur aujourd'hui. Amen. Je vais vous lire aujourd'hui le texte de Paul dans Philippiens au chapitre 1, à partir du verset 27. Je ne vais pas vous le lire dans la version traditionnelle, mais dans Parole vivante. Donc, ce n'est pas que c'est un texte différent, c'est un texte où certains mots sont ajoutés de façon à ce que le texte devienne plus clair encore. Quand on voit la différence entre, dans le texte que je vais lire, entre Parole vivante et puis la version traditionnelle, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à comprendre dans la version traditionnelle. Voilà, donc Philippiens chapitre 1, verset 27 et les suivants. Quoi qu'il en soit, que j'aille vous voir ou que je reste loin de vous, menez une vie conforme à l'évangile du Christ. Montrez-vous digne de lui dans toute votre conduite, comme de vrais citoyens de son royaume. Car si je viens chez vous, j'aimerais voir, et si je reste absent, j'aimerais entendre dire que vous tenez bon dans l'unité spirituelle, combattant d'un seul cœur et d'une même âme pour la foi fondée sur l'Évangile, luttant comme un seul homme, afin que d'autres arrivent à croire à la bonne nouvelle. Et cela sans vous laisser intimider en rien par vos adversaires. S'ils haïssent l'Évangile et se rebiffent contre lui, cela prouve qu'ils courent à leur perte. Par leur résistance, ils prononcent eux-mêmes leur sentence et s'attirent la condamnation. Votre intrépidité, par contre, est un signe que Dieu agit en vous et un présage certain de votre salut final. Tout cela vient de Dieu. Il vous conduira au but. Car c'est par faveur qu'il vous accorde le privilège, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Vous et moi, nous sommes engagés dans le même conflit. Le combat que vous m'avez vu soutenir, dont vous entendez maintenant que je le soutiens toujours, ce combat est devenu le vôtre. Si donc, en tant que chrétien, vous attachez du prix à un appel donné dans l'Esprit du Christ, si les encouragements et les conseils d'un frère qui vous aime ont quelque valeur et quelque force de persuasion pour vous, si enfin il existe entre vous une communion spirituelle vivante et tout ce que cela implique d'affection et de sympathie mutuelle, oui, si les mots de tendresse et de compassion ont un sens pour vous, Comblez la mesure de ma joie en vivant ensemble en bonne attente, en bonne entente. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Accordez vos sentiments et vos façons de voir. Aspirez au même but. Travaillez comme si vous aviez un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions, que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. Ce qui m'a frappé à la lecture de la lettre aux Philippiens, que j'avais déjà lue pourtant, mais cette fois-ci, j'ai été frappé par l'amour et la tendresse que Paul manifeste envers ces chrétiens de Macédoine. C'est étonnant. Ces chrétiens de Macédoine à qui il a annoncé l'évangile quelques années auparavant. Je cite deux passages. « Je vous porte dans mon cœur. » Verset 7. Ou bien « Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Verset 8. Il exprime aussi sa joie de servir le Christ. Comment c'est possible? Parce qu'il est en prison. Mais il l'exprime. Et il dit, ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire son emprisonnement, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Verset 13. Ainsi, dans ce climat d'amour fraternel profond et de totale confiance en Dieu, les exhortations que Paul adresse aux Philippiens dans le passage que je vous ai lu n'ont pas un caractère de reproche, pas du tout. Elles constituent une série de conseils spirituels prodigués par un pasteur qui les aime tendrement et qui veut que ses enfants spirituels soient aptes à porter des fruits dans la mission qui leur est confiée, c'est-à-dire répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Au-delà des Philippiens, frères et sœurs, c'est vraiment à nous que s'adresse aujourd'hui ce passage. Nous qui voulons avoir l'évangélisation pour carte principale dans notre marche avec le Seigneur. Car c'est bien de cela qu'il s'agit dans ce passage. Et il se trouve au verset 27. Je vous le relis plutôt. Car si je viens chez vous, j'aimerais voir que vous tenez bon dans l'unité spirituelle, combattant d'un seul cœur et d'une même âme. Pourquoi ? Pour la foi fondée sur l'Évangile, luttant comme un seul homme, afin que d'autres arrivent à croire à la bonne nouvelle. Luttant comme un seul homme, afin que d'autres arrivent à croire à la bonne nouvelle. On n'est pas étonné de ce thème qui est récurrent chez l'apôtre Paul, puisque toute sa vie a été consacrée à la proclamation, à la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. De quoi parlent les autres versets de ce passage? Le verset 28 parle de la lutte contre les adversaires de l'évangile. « Sans vous laisser intimider en rien par vos adversaires, écrit-il. » Le verset 29 évoque la persécution, dont Paul dit que c'est une grâce. C'est par faveur qu'il vous accorde le privilège non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Et dans les versets suivants, Paul décrit le comportement que les chrétiens d'une communauté devraient avoir entre eux, et ce, le comportement qu'ils devraient bannir. Je relis, pas encore. N'oublions pas que c'est à nous que Paul s'adresse. Demandons au Seigneur qu'il grave ses exhortations sur notre cœur et qu'il nous donne aussi la volonté de les mettre en pratique. Je lis ce que Paul écrit. Comblez la mesure de ma joie en vivant ensemble en bonne entente. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Accordez vos sentiments et vos façons de voir, aspirez au même but. Travaillez comme si vous aviez un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez part à ses progrès. Ces comportements entre chrétiens qui semblent tellement éloignés de la réalité vécue dans de nombreuses communautés chrétiennes, Paul n'hésite pas à les donner comme exhortation aux chrétiens de Philippe, car, dit-il, lorsqu'on se réclame de Christ, on doit avoir la même attitude que la sienne. Je cite, « Ayez en vous les pensées et les sentiments qui animaient le Christ. » Voilà, quelles sont les conditions nécessaires que nous avons à remplir. Si nous voulons que l'évangile que nous allons proclamer trouve un écho dans le cœur de ceux à qui nous voulons annoncer la bonne nouvelle. Peut-être pensez-vous intérieurement que Paul place la barre très haut. Eh bien, je le pense aussi. Et pourtant, je sais bien que Paul a raison. Si les conditions dont il parle ne sont pas remplies, les fruits ne seront pas ceux que nous espérons. Pourquoi? Parce que les fruits sont l'œuvre du Saint-Esprit au travers de l'obéissance des chrétiens. Tout ce qui attriste le Saint-Esprit bloque sa puissance. L'évangélisation n'a jamais été et ne sera jamais un exercice facile. Il y aura toujours des ennemis intérieurs, nous-mêmes, ou bien des ennemis extérieurs, ceux qui sont sous l'influence du monde gouverné par les ennemis de Jésus-Christ. Il y a un prix à payer lorsqu'on veut évangéliser. Quel est ce prix? Au pire, c'est sa propre vie, ou bien la persécution qui se traduit par des menaces, des spoliations, l'emprisonnement et d'autres choses encore. Il n'y a qu'à lire le bulletin de Portes Ouvertes pour s'en rendre compte. 215 millions d'hommes et de femmes dans le monde payent ce prix aujourd'hui. Heureusement, nous n'en sommes pas à ces extrêmes dans notre pays. Pourtant, il y a aussi un prix à payer pour nous qui vivons dans la liberté religieuse. Ce prix, c'est celui de notre tranquillité. notre chère tranquillité qui nous tient tant à cœur, à laquelle nous sommes tellement habitués, lorsque la vie chrétienne se résume au culte dominical et à quelques réunions de temps en temps. Le désir de tranquillité, qu'est-ce que c'est? C'est d'éliminer toute contrainte. C'est de faire seulement ce qu'on a envie de faire. C'est de toujours trouver des prétextes pour repousser ce qu'une petite voix intérieure nous dit de faire. Et en tant que chrétien, cette petite voix, elle a un nom. Elle s'appelle l'Esprit Saint. Le désir de tranquillité vient souvent s'opposer au Saint-Esprit. Soyons-en conscients. Le désir de tranquillité est un ennemi redoutable pour l'évangélisation. Je me souviens d'un pasteur qui disait « Le Saint-Esprit n'a jamais laissé quelqu'un tranquille. » Bien entendu, il voulait dire quelqu'un qui veut obéir au Saint-Esprit. Ce n'est pas du tout dérangeant de parler de l'Esprit-Saint, mais lui obéir à l'Esprit-Saint. C'est autre chose. Ce désir de tranquillité est aussi démobilisateur que la peur que l'on éprouve à la pensée de participer à une action d'évangélisation ou de parler de Jésus à un inconnu. Lorsque Paul s'adresse aux Philippiens pour les motiver à évangéliser, il ne leur dit pas « Cool, vous allez voir ». Ça va être facile. Il vous suffira juste de parler de Jésus. Non. Il emploie des verbes du registre de la guerre. Il emploie des verbes combattre. Il emploie le verbe lutter. Combattre pour la foi fondée sur l'Évangile. Combattre. Lutter comme un seul homme, c'est-à-dire tous ensemble, c'est-à-dire unis, pour que des hommes donnent leur vie à Christ. Quel genre de combat et contre qui lutter? Lorsqu'on a vaincu notre ennemi intérieur, notre désir de tranquillité, et qu'on est prêt à obéir à l'Esprit Saint, il y a un autre combat à mener. Paul en parle clairement dans sa lettre aux Éphésiens. Que dit-il? Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre les organisations spirituelles sataniques, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre les légions des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Éphésiens 6, 12. Frères et sœurs, si nous accordons du crédit à ce que Paul dit ici, alors nous comprenons pourquoi l'évangélisation n'est pas un long fleuve tranquille. Pour combattre ces forces hostiles, les chrétiens doivent avoir des armes plus fortes que ces forces hostiles. Et quelles sont ces armes? Dans le cadre d'une communauté, il y a une arme qui résume toutes les autres. C'est l'amour des uns pour les autres. Paul insiste sur ce point de diverses façons. Qu'est-ce qu'il dit? Comblez la mesure de ma joie en vivant ensemble en bonne entente. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Lorsque l'amour des uns pour les autres domine dans une communauté, Il peut y avoir des différences de point de vue. Mais il ne peut pas y avoir de division destructrice. Paul n'est pas naïf au point de penser que la foi chrétienne gomme les différences entre les hommes. Mais quand on appartient à Christ, ces divisions ne doivent pas conduire à la division. À ce propos, il exhorte les Colossiens. Je cite : Si vous trouvez quelque chose à critiquer en votre frère, c'est possible. Portez et supportez-vous les uns les autres. Et si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêt à vous pardonner vos torts aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. Mais par-dessus tout cela, mettez la ceinture de l'amour, car l'amour liera, du verbe lier, liera ses vertus parfaitement ensemble et rendra votre communion indissoluble. Colossiens 3,13. Mettons en pratique ce que Paul dit ici, car soyons-en persuadés, la division est l'arme favorite de notre ennemi. Elle fait des ravages dans les églises et elle paralyse la vie spirituelle. Au contraire, l'amour fraternel largement répandu unit les membres d'une communauté dans l'action et dans la prière. La prière, c'est l'arme par excellence, capable de repousser les attaques de l'ennemi lorsqu'elle est conduite, cette prière, par le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle la prière individuelle et communautaire doit être la priorité de la vie chrétienne. L'amour des uns pour les autres a une autre vertu. Elle unit les chrétiens dans les buts à atteindre et dans la vision de l'Église. L'amour fraternel permet aussi de rejeter ce contre quoi Paul nous met en garde. C'est quoi ? L'esprit de rivalité, la vanité, le désir de faire bonne impression, le sentiment de supériorité, toutes ces attitudes si fréquentes dans les églises sont terriblement destructrices, mais elles disparaissent lorsque l'amour des uns pour les autres domine. L'ennemi se trouve alors paralysé. Où en sommes-nous à Thiers ? Les exhortations de Paul nous semblent-elles hors de portée ? Nous semblent-elles utopiques ? Pour ceux qui penseraient cela, je pose une question. L'Esprit Saint a-t-il inspiré ce texte à Paul dans le but de décourager les communautés chrétiennes ? Ce serait grave si nous pensions cela. Si ces paroles n'ont pas pour but de nous décourager, et si dans le même temps nous sommes conscients de nos faiblesses et de nos manques, il n'y a qu'une seule voie à suivre. C'est celle de la repentance et du pardon. La repentance et le pardon, c'est comme la plus efficace des gommes. C'est la rentrée en ce moment, et dans les supermarchés, on voit les petits élèves choisir leur fourniture et la gomme, elle a de l'importance. Ils la choisissent bien, la gomme. La repentance et le pardon, c'est comme la plus efficace des gommes. Elle est capable d'effacer les erreurs, les fautes, les blessures, les rancœurs, les critiques, les jugements, les non-pardons, les faux-semblants, les sentiments de supériorité, mais aussi les sentiments d'infériorité, l'hypocrisie, le manque d'amour, c'est-à-dire tout ce qui paralyse une Église dans sa mission essentielle, qui est l'évangélisation. Cette gomme, elle a un nom. C'est le sang que Jésus a versé à la croix. Il nous purifie et fait de chaque être un être nouveau. Alors, loin de nous décourager, ce texte de Paul doit être notre feuille de route. Si nous sommes unis, si nous comptons sur l'Esprit, si nous nous laissons guider par lui, la vision que le Seigneur nous a donnée s'incarnera un jour. Alors soyons obéissants, soyons fidèles, soyons persévérants, soyons confiants. Et n'oublions jamais que le réveil, avec un R majuscule, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ne l'attristons donc pas. Laissons-lui toute la place. Et alors, il agira.